Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Je suis comme toujours accompagné par Olivier De Scutter. Salut Olivier.
Salut Hermano, comment vas-tu?
Eh bien écoute, je vais très bien. Nous abordons le milieu de la semaine. Il ne reste plus beaucoup d'épisodes malheureusement pour en apprendre beaucoup plus sur la nutrition du sportif. Mais justement, eh bien nous avons notre invité, Valentin Lacroix. Salut Valentin.
Salut Hermano, bien digéré?
C'est vrai que c'est un peu la question qui se pose dans l'épisode d'aujourd'hui.
Bah, on va y répondre.
Juste avant, hier, on a parlé un petit peu de manière assez générale de la nutrition et plus particulièrement de la nutrition du sportif ou des sportifs de manière assez globale. Il y avait un point qu'on n'avait pas abordé qui était autour des piliers de la récupération, puisque tout sportif qui se respecte doit savoir qu'il y a l'entraînement, qu'il y a une phase d'adaptation de la charge d'entraînement que l'on soumet à son corps, qui va permettre éventuellement de progresser, mais il y a aussi d'autres piliers et qui vont concourir notamment à la récupération. J'imagine que de temps, on y inclut la nutrition, Valentin.
C'est ça, en fait, comme tu dis, l'entraînement va induire une fatigue et principe bien connu des entraîneurs, ce qu'on appelle la surcompensation, ce qui va nous permettre de récupérer dans un deuxième temps de progresser, repose en fait sur la récupération du sportif. Et les bases de cette récupération vont être la nutrition, l'hydratation et le sommeil, qui s'ils ne sont pas optimisés, en fait, on peut très bien avoir des techniques annexes, que ça soit des massages, des étirements, la cryothérapie, etc. Vous avez sans doute des experts qui ont pu en parler, mais si on n'a pas maîtrisé les bases, on ne pourra pas en fait optimiser tout le reste de la récupération et donc limiter la progression au fur et à mesure.
Du coup, Valentin, tu nous parles des piliers où notamment il y a la nutrition, l'hydratation, le sommeil qui vont favoriser la récupération. J'imagine que si un des piliers est un petit peu bancal, ça peut engendrer des déséquilibres et notamment, alors évidemment, au niveau de l'entraînement, au niveau de la performance, mais aussi au niveau du poids.
C'est ça. Et même les trois sont interdépendants parce que si on prend un sommeil de mauvaise qualité, une mauvaise récupération, on va perturber plein de mécanismes, que ce soit au niveau hormonal, au niveau des circuits de la récompense, etc., qui peuvent en fait impacter notre façon de nous alimenter. Peut-être qu'on va se tourner vers des aliments plus réconfortants, etc. Pareil, si on est mal hydraté, on va mal utiliser les nutriments qu'on va consommer dans l'alimentation. Donc, ils sont tous liés et les trois vont vraiment de pair. Par rapport à ces trois piliers, ils ont clairement un impact sur le poids parce que déjà, on en parle bien longtemps dans le e-book, mais on a un des points importants de la santé du métabolisme, en fait, qui est ce qu'on appelle l'inflammation. Et cette inflammation va notamment moduler, induire un bon comportement et potentiellement une meilleure gestion du poids. Donc, si ces piliers ne sont pas maîtrisés, on peut avoir des choses qui vont se répercuter sur notre comportement, sur notre faculté, ou une mauvaise tolérance sur certains nutriments, qu'on va faire qu'on va les stocker de manière plus précoce ou de manière plus importante. Donc, il y a vraiment des liens étroits avec la santé, on va dire, métabolique, la performance, la récupération, et la santé plus générale, dont la gestion du poids fait partie, parce que si on parle d'obésité ou autre, bon, qui ne sont pas forcément reliés à notre public, c'est une pathologie avant tout, ce qu'on appelle inflammatoire.
Ok, alors justement, on parle de poids. Je pense que ce qui intéresse les sportifs quand on parle de poids, c'est évidemment de trouver le poids idéal, que l'on pourrait peut-être qualifier aussi de poids de forme. Toi qui es le spécialiste du sujet, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que le poids de forme? Déjà, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce n'est pas qu'un mythe? Et puis, s'il existe, comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce qu'on le maintient? Et surtout, est-ce qu'on doit observer un point de forme au quotidien, toute l'année, pendant toute la période d'entraînement ou juste à certaines phases?
Eh ben, un grand mystère sur ce poids de forme. J'ai pas de réponse claire. On va dire que chacun est différent, que chacun va avoir un poids de forme qui lui est propre. Et les méthodes, ou en tout cas la durée ou les techniques qu'il va pouvoir mettre en place par rapport à l'alimentation lui seront propres. Donc, ce qui veut dire que des personnes vont avoir besoin peut-être de plusieurs mois pour arriver à leur poids de forme par rapport à leur objectif annuel, leur objectif sportif. Et d'autres vont pouvoir, puisqu'ils sont plus proches de leur poids de forme tout au long de l'année, avoir plusieurs objectifs dans l'année et pouvoir périodiser en fait leur poids pour atteindre leur pic de performance. Parce qu'on appelle ça le poids de forme parce que c'est un poids où Déjà, on améliore ce qu'on appelle le rapport poids-puissance. Donc, on est plus performant sur les lourds en course à pied. On est plus efficient, mais aussi parce que tout le métabolisme, l'utilisation de l'énergie, etc., le développement de la puissance, va être optimisé parce que, en fait, l'organisme fonctionne à plein régime.
On ne sait pas très bien comment le définir, que c'est peut-être plutôt une sensation chez le sportif, chez l'athlète, mais que il y a quand même un élément qui va jouer en faveur de définir cela clairement. Ça va être le poids auquel on a le meilleur rendement poids-puissance, le poids où on va se sentir le plus léger, le plus efficace, le plus efficient. Est-ce que c'est totalement que du ressenti de l'athlète ou est-ce qu'on a quand même un moyen d'être guidé, de mesurer ça? On parle souvent, par exemple, de masse grasse. Est-ce que l'indice de masse grasse peut être aussi un indice pour définir son poids de forme? Est-ce qu'on peut descendre en dessous d'un certain indice? Est-ce qu'on peut être au-dessus? Ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, un ressenti, une sensation de l'athlète?
Encore une fois, difficile de répondre, et notamment entre le public féminin et le public masculin. On va dire que chez le public féminin, c'est un sujet d'autant plus sensible, puisque généralement, si on passe en dessous d'un seuil qui est d'environ 17% de masse grasse, on peut avoir des répercussions sur l'ensemble du métabolisme, et notamment ce qu'on appelle une faible disponibilité énergétique qui va faire que l'organisme fonctionne au ralenti. Et donc, tous les mécanismes de performance vont être impactés. Chez l'homme, c'est un peu plus difficile à cerner, mais on peut déjà observer ces mêmes mécanismes, pas forcément au même pourcentage de masse grasse, mais je dirais que chez l'homme, c'est plus dur à trouver ce pourcentage de masse grasse optimal parce que chaque métabolisme va être différent. Et si on prend les triathlètes ou même des cyclistes, tous les sports d'endurance, on voit des fois des pourcentages de masse grasse très 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 faibles, même parfois en dessous de 7%, ce qui est vraiment très bas. Et on peut avoir des athlètes ultra performants. Donc chez l'homme, c'est plus du ressenti où l'athlète commence à se connaître et à partir de plusieurs compétitions, il sait à quel poids il est le plus performant. En dessous, il sait qu'il peut être contre-performant, manquer d'énergie, etc. Et au-dessus, ben, il l'optimise pas non plus. Donc, c'est vraiment y aller à tâtons et observer ce qui fonctionne, notamment encore plus sur des efforts d'endurance.
Et du coup, pour un triathlète débutant qui n'aurait pas encore beaucoup de ressenti pour pouvoir juger ça, enfin de son poids de forme, est-ce qu'il y a une règle de 3 ou quoi, quelque chose qui pourrait lui donner ne fût-ce qu'un indice?
J'inverserai la question et j'essaierai déjà de travailler sur l'alimentation, le fait d'avoir une alimentation de meilleure qualité, de prendre conscience de ce qu'on mange pour potentiellement aussi adapter ses quantités en prenant le temps de manger, en écoutant ses sensations, etc. Pour dans un deuxième temps, en fait, affiner le poids parce que de manière naturelle, le débutant va augmenter sa charge de travail et va s'affûter de manière progressive simplement parce qu'il a augmenté son niveau d'activité physique, donc sa dépense énergétique, simplement comme ça.
Donc pour le triathlète débutant, c'est pas nécessaire de se concentrer sur son poids de forme dans un premier temps, il faut plutôt se concentrer sur une alimentation saine et équilibrée, comme tu le disais notamment hier.
Ça, déjà devenir un athlète avant de devenir un triathlète, c'est-à-dire se construire musculairement, optimiser tout son fonctionnement avant d'optimiser son poids, en fait.
Bah, c'est très clair. Moi, ce que je vous propose, c'est que demain, on embraye justement sur une semaine type avant compétition, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se nourrir correctement pour limiter, pour prévenir la contre-performance.
Et ben, ça me va.
C'est parfait. À demain.
Super. À demain.
Merci.
Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.